Il y aurait beaucoup de sujets de se plaindre par rapport à ce qu'il subit. Mais finalement, on n'a pas à se plaindre. Soit on se plaint, soit on prie. Quelque part, voilà la fin du message. Donc pour ceux qui ont des obligations, vous pouvez y aller. Soit on se plaint, soit on prie. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, dit l'apôtre Paul, eh bien qu'il prie, qu'il pardonne. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il ? Lamentation de Jérémie. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Voilà. Et ne vous plaignez pas les uns des autres, dira l'apôtre Jacques. Alors on va faire une lecture dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe et ensuite Daniel. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 59. Et à partir de là, on va peut-être débroussailler, élaguer, et toutes les choses qui nous embroussaillent, eh bien, qu'on puisse s'en libérer et avancer. Parce que Ésaïe dit ceci au chapitre 59, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture, ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » Alors c'est sûr que ça concerne des personnes dans une position peut-être extrême, mais avant d'arriver à l'extrémité, il y a quand même un début au chemin. Voilà. Et peut-être que c'est le mauvais chemin sur lequel il ne faut pas aller. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous rondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Nous sommes 8 siècles avant Jésus-Christ. Il est probable que Daniel ait lu ces textes d'autant qu'il a lu ce d'après écrit par le prophète Jérémie. Donc je me dis que, constatant le fonctionnement de Daniel, il est probable qu'il ait lu ce qui était écrit venant de Dieu, et le prophète Ésaïe est un prophète, c'est un monument, c'est un prophète incontournable. Pour nous aujourd'hui, c'est un prophète de l'Ancien Testament, c'est un des livres de la Bible. Mais quand on se met dans cette époque-là, il n'y a pas tellement de livres écrits. Alors, le prophète Ésaïe, c'est le livre. Le Nouveau Testament n'existe pas, c'est le livre des prophètes, par excellence. Et je suis sûr que Daniel l'a lu. Et Daniel se retrouve, on arrive au chapitre 9, on fera de temps en temps une lecture dans le chapitre 9 et le chapitre 10 du livre de Daniel. Daniel se retrouve dans une situation où il aurait sujet de se plaindre à raison, parce que lui n'a rien fait pour en arriver là où il est. Et même lui réagit comme nous allons le lire. Donc dans la mesure où il réagit comme nous allons le lire, c'est la voie. C'est le chemin, c'est la manière d'agir d'ordre spirituel. Et dans la mesure où on serait coupable de quelque chose, alors c'est encore plus la voie, c'est comme cela qu'il faut agir, c'est-à-dire ne pas se plaindre. Daniel, par excellence ou par définition, c'est le juste qui subit l'injustice des autres. Le peuple qui était avant lui, les ancêtres, se sont éloignés de Dieu. Et ce que Dieu avait dit arrive maintenant à se réaliser, c'est que le peuple de Juda est emporté à Babylone. Et lui, ce jeune homme, qui n'a rien fait, puisque pour le coup c'était avant lui que tout s'est déroulé, il subit les conséquences. Et alors qu'il aurait sujet de revendiquer, de se plaindre devant Dieu, eh bien, c'est un homme qui dit au chapitre 9 et verset 2, première année du règne de Darius, « Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. » La position de cet homme dans la situation dans laquelle il est de lire la parole de Dieu, de lire les livres. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Nous ne comprenons pas pourquoi les choses sont difficiles. Beaucoup de personnes, et encore cette semaine, quand on rencontre des gens qui posent des questions sur Dieu, ça se réduit toujours au même type de questions qui sont normales. Mais alors pourquoi, si Dieu est Dieu, et s'il existe, et s'il est bon, le monde est dans un tel état? C'est dans le livre, c'est dans la parole que nous avons les réponses. Alors on aurait sujet de se plaindre en disant « mais moi je n'ai rien fait », sauf que qui d'entre nous est juste? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Alors nous subissons les injustices ou les erreurs commises par les autres, qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. On pourrait même en vouloir à Adam et Ève, hein, si on va au bout de ce raisonnement-là. Parce que s'ils n'avaient pas péché cela, on n'en serait pas là. Sauf qu'à leur place, on aurait péché aussi. Parce qu'Adam et Ève, c'est quand même pas uniquement un archétype, c'est une réalité, c'est un homme et c'est une femme. Mais en même temps, ils représentent tout le monde. Parce que nous sommes tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire avec le même état de cœur devant Dieu, et nous aurions fait la même chose. C'est-à-dire que vous, mesdames qui êtes là, vous nous auriez amenés dans la même situation. Et nous, à côté, on aurait suivi Adam, vous inquiétez pas, on ne vous aurait pas laissé partir toute seule. Enfin, c'était juste pour plaisanter. Hein. Je vis par les livres. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons. Et Daniel comprend pourquoi il est à Babylone, pourquoi ça lui est tombé dessus avec autant de force. Alors qu'est-ce qu'il fait au verset 3 ? « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et je priais. » Et voilà ce que nous devons faire. C'est la voie, c'est le chemin, il n'y en a pas d'autre. Dans quelque situation que ce soit, que nous ayons 1% de responsabilité, 0 ou 50-50, finalement peu importe, exonérons-nous de tout et adoptons la position spirituelle qui convient, c'est-à-dire de prier. Et à partir de là, nous allons dire comme Daniel, nous avons péché, nous n'avons pas écouté, c'est au verset 5, hein. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances, et pourtant ils ne sont pas nombreux, 10 commandements, ils ne sont pas pénibles, mais on s'en est quand même détourné, et le résultat est là. Alors, que faire? Que dois-je faire? Je dois me tenir devant Dieu dans la prière et dans la confession de ce qui me concerne. Et en même temps, je fais bloc avec le monde dans lequel je vis. Parce que nous sommes tous responsables devant Dieu de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que nous y avons une part de responsabilité. Parce que nous n'avons pas été jusqu'à aujourd'hui sans erreur. Nous n'avons pas été sans péché. Même si aujourd'hui je vis une situation particulière, en fait elle est particulière dans un ensemble. Voilà. Et c'est le résultat. Le résultat, il est que le Seigneur en souffre, et devant ce constat d'échec sans appel, il a dû accepter de venir lui-même en donnant son fils en sacrifice. Alors il va prier et il va dire au verset 7, « À toi la justice, à nous la confusion de face. » Et il ne revendique pas, il n'objecte pas. Il est devant Dieu et il dit, « Seigneur, je suis responsable aussi et je te demande pardon. Mais Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif. » Que ce soit un petit peu notre leitmotiv au verset 17. Mon Dieu, verset 18, 17 et 18, 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis. Et ne tarde pas. Et quand notre prière sera calée sur ces valeurs-là, une reconnaissance d'ensemble, un cœur vraiment ouvert devant Dieu, avec des demandes qui retentissent comme des affirmations, des aspirations. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis. Daniel l'a fait. Dieu est intervenu. Mes frères et sœurs, quand deux ou trois le feront, vous verrez le résultat. Quand 120, le jour de la Pentecôte, se sont tenus devant Dieu, vous avez vu le résultat aussi. Quand un le fait, des choses se passent. Quand deux ou trois le font, des choses se passent encore plus grandes. Et quand 120 le font, alors le monde est en perspective d'être bouleversé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à partir de nous. Et Dieu va lui parler. Il dit au verset 20, « Je parlais encore, je priais. » Je confessais mon péché et celui de mon peuple. Je parlais encore dans ma prière, verset 21, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit, s'entretint avec moi et me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Vous pouvez tous partir. Moi, ça, je le veux. Rendez compte, il prie, il est tout seul dans son coin, et l'ange Gabriel vient, se présente à lui. S'il le nomme, c'est que d'une certaine manière, il y a eu un échange. Je n'ai jamais vu d'ange jusqu'à ce jour. Mais là, il en voit un et il sait comment il s'appelle. Donc, il y a eu au moins un minimum d'échange qui amène Daniel à dire « c'est un ange, il s'appelle Gabriel ». Quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Et l'ange vient lui dire, je suis venu, on le verra plus loin, ta prière a été écoutée, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, pour comprendre les choses de ce monde, pour comprendre les choses qui se passent autour de nous, les choses qui nous arrivent. Si nous ne prenons pas de la hauteur, nous ne comprenons pas ce qui se passe, le piège éventuel dans lequel il ne faut pas tomber, et nous ne voyons pas quelle est l'œuvre que Dieu veut faire. Mais quand nous prenons de la hauteur, nous comprenons ce qui se passe. Nous voyons le piège dans lequel il ne faut pas tomber et nous adoptons la bonne position qui va permettre à Dieu d'agir. Un exemple concret, Paul et Silas sont attrapés, sont battus de verges. Ils ne se plaignent pas parce que Paul a de la hauteur et je comprends que Silas est à la même hauteur. C'est un binôme qui fonctionne. Il y a une entente. Ils sont dans la prison, à tort. Et ils chantent des cantiques. Et ils prient. Parce qu'ils voient la chose de beaucoup plus haut. Ils ne savent pas comment ça va se finir. Nous le savons parce que nous avons l'histoire terminée telle qu'elle nous est mentionnée dans le livre des Actes des Apôtres. Mais d'une certaine manière, c'est à nous d'écrire l'histoire. Notre histoire. C'est Paul et Silas qui écrivent leur histoire. S'ils avaient réagi différemment, peut-être que ça se serait déroulé autrement. Mais ils ont agi comme ça. Et l'intervention de Dieu, elle est à la clé. Elle est grandiose. C'est nous qui écrivons notre histoire. Ce n'est pas écrit d'avance. J'aurais cru qu'il y ait au moins un amen ou deux pour le coup. Ce n'est pas écrit d'avance que nous sommes perdus à jamais, sans espoir d'être sauvés. Le péché nous amenait dans cette direction, mais le Seigneur a tout changé. À partir de là, rien n'est écrit d'avance. Rien n'est écrit d'avance. Ça veut dire que mon lendemain, il est dans la main de Dieu. Sans Dieu, je sais, je perçois comment il pourrait s'écrire. Seulement voilà, dans la main de Dieu, je ne sais pas. Mais je sais que le lendemain aura sein de lui-même et que de belles choses peuvent se passer. Et nous avons tous fait ce type d'expérience. Et le témoignage de Sandrine tout à l'heure nous indique que dans une simple et banale nuit de travail à l'hôpital, Dieu a voulu faire quelque chose. Mais il fallait répondre oui, je viens. Sans savoir qui serait là, prendre le petit livre qui a suscité et qui a été le sujet de ces questions et qui a mené cet échange. Mais il fallait au départ dire, ben écoutez, oui, je viens. C'est ma nuit de repos, mais si vous n'avez trouvé personne, eh bien je viens. Mais c'est à nous de prendre la décision au moment où nous devons la prendre. Eh bien, quand nous prenons nos décisions devant Dieu comme il convient, quand nous nous tenons devant Dieu comme il convient, nous écrivons l'histoire. Nous écrivons notre propre histoire. Et moi, je me dis, Seigneur, mon histoire, trop souvent, je l'ai laissée s'écrire toute seule. Je l'ai laissée filer. Alors après, pour revenir dessus, pour effacer, pour corriger, c'est comme vous et moi, hein, quand on a écrit au stylo sur une feuille, qu'on n'a pas formulé comme il fallait, qu'on a fait des fautes, après pour revenir dessus, alors du coup on est tous passés au crayon à papier. Voilà. Mais dans notre vie, ça ne s'écrit pas au crayon à papier, ça s'écrit à l'encre indélébile. Alors en amont, permettons à Dieu de nous renouveler l'intelligence. Et Seigneur, pour demain, rafraîchis mes neurones humaines et spirituelles, si vous me permettez la comparaison, renouvelle à moi l'intelligence, un esprit bien disposé. Permets-moi de prendre de la hauteur. Rajoute des marches à mon escabeau. Ouais. Parce que, à partir d'une certaine hauteur, on ne maîtrise plus, hein. Mais Dieu veut nous amener beaucoup plus haut. Alors montons. Peut-être que nous avons l'habitude de l'escabeau à 3 ou 4 marches. Et nous nous disons, quand on est à la 4e, oh, Seigneur, merci. Seulement, voilà, devant Dieu, il n'y a pas que 4 marches. Nous pouvons monter très haut. Nous pouvons monter plus haut que ce que nous avons déjà vécu dans la foi, dans la communion avec Dieu, dans la vie spirituelle. Regardez l'Ancien Testament. Toujours, le Seigneur a invité celui qui s'approchait de lui à monter plus haut. À Jacob, la vision d'une échelle. Et pour monter, à Moïse, tu montes sur la montagne. Et c'est comme cela que le Seigneur fera. Il va monter sur la montagne, il va appeler les 3 disciples avec lui, et ils vont vivre et voir des choses extraordinaires. Montez dans la chambre haute pour recevoir l'onction de l'Esprit. Nous devons monter pour que Dieu renouvelle notre intelligence et nous amène à voir les choses tout autrement. Alors on arrive au chapitre 10, verset 1, et il dit « Une parole fut révélée à Daniel ». Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Et quand Dieu va me parler au travers de sa parole, et quand il va m'amener à comprendre que dans cette situation, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Alors je le fais et je me soucie plus de rien. Je fais ce qu'il faut. souvent il faut se taire. De toute façon, c'est l'un ou l'autre. Soit vous parlez à Dieu, vous priez, et à partir de là, vous faites confiance à Dieu, il va agir. Soit c'est vous qui vous occupez de la situation, et bien le Seigneur, il attend. Voilà. Donc, le mieux, c'est d'abord de parler à Dieu et de confier ensuite la situation. Il est dit au verset 11 du chapitre 10, « Homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Après avoir prié, je vais réaliser une chose. C'est que pour lui, l'ange Gabriel, pour moi, le Seigneur de toute éternité, l'Éternel, est avec nous juste tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous pourquoi ? Pas simplement pour nous rassurer, il le fait. Il est avec nous pour vivre avec nous et s'occuper avec nous de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe tous les jours jusqu'à la fin du monde. Non pas pour qu'à la fin du monde, nous soyons encore là, mais pour qu'à la fin du monde, à la fin de notre vie, nous ayons mené le bon combat, achevé la course, nous ayons derrière nous laissé de telles traces qu'un peuple nombreux va les emprunter, va les suivre, et que plusieurs viendront et suivront. Et ce matin, au travers d'un des dons spirituels, le Seigneur a donné l'explication des quelques places qui restent encore. Voilà. Et puis, on rajoutera les chaises, parce que ceux de notre famille vont venir dans la maison de Dieu. Parce qu'il ne pourra pas en être autrement, je me tiens devant Dieu de telle manière que Dieu est en train d'agir. Et à un moment donné, je verrai le résultat. Je verrai les choses réellement, concrètement. Et je verrai ces bien-aimés assis autour de moi. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Il est dit au verset 12, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Est-ce que ma prière amènerait le Seigneur à bouger ? Vous savez, il est le Tout-Puissant, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Quand est-ce que le bras de Dieu se meut ? Quand est-ce que le bras de Dieu se manifeste et agit ? Quand un homme prie, quand une femme prie. Depuis que tu as eu à cœur de comprendre et de te tenir devant moi pour prier, eh bien, maintenant, je viens. Non seulement nous allons écrire notre histoire, mais de par notre position spirituelle, nous allons, excusez le terme, vous allez le comprendre, mais je ne peux pas en utiliser d'autres, nous allons faire agir Dieu. C'est nous qui faisons agir Dieu. Que veux-tu que je te fasse ? Qu'attends-tu que le Seigneur manifeste ? Demande-le lui, d'une part, et d'autre part, mets-toi dans la position qui lui permette de le faire, c'est-à-dire être juste, être vrai. Et Daniel prie, il est juste, Dieu agit. Dieu se manifeste, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors on va au verset 14, et il lui dit, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Le Seigneur voudrait nous amener dans une dimension de prophétie, de connaissance. Mais pour cela, il faut que notre intelligence soit renouvelée, que notre esprit le soit aussi. Ce n'est pas réservé à quelques-uns d'apporter des prophéties, d'avoir des paroles de connaissance, de voir les choses. C'est à tout le monde. Allons chercher cette dimension que Dieu veut donner à nos vies, afin que nous parlions de sa part, que nous voyons ce que Dieu voit. Ouvre-lui les yeux pour qu'il voie sur la montagne qui nous entoure, et qu'il ne se lamente pas, qu'il ne se plaigne pas de voir que la situation, humainement parlant, est complètement défavorable. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Eh bien, mes frères et sœurs, dans une situation qui ne serait pas favorable, que le Seigneur nous montre. Mais moi, je suis là. Tu m'as prié, tu es fidèle, tu comptes sur moi. Surtout, ne tremble pas. Surtout, ne bouge pas. Gardons le silence devant l'Éternel et il va agir. Il est fidèle, il est puissant, il est bon, il est à notre côté. Venons devant Dieu pour qu'il se manifeste de cette manière-là dans notre vie. Alors au verset 19, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Et on va s'arrêter sur des paroles comme celle-là. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, que l'Esprit de Dieu et que la parole de Dieu en nous soit à un tel niveau que rien ne va nous faire trembler, ne va nous déstabiliser. La paix s'est installée. À l'intérieur, c'est la sérénité. Dehors, c'est la tempête. Mais sur le bateau, Paul est tranquille. Parce qu'il a prié, le Seigneur lui a répondu. Il est tranquille. Il est capable de dire à tous les autres qui s'accrochent aux mâts ou qui s'accrochent au cordage, ne craignez pas, il n'y en a pas un qui va se perdre. Si vous écoutez la parole de Dieu. Mais pourquoi un homme, et pourquoi pas nous, pourquoi un homme dans une circonstance aussi dramatique de tempête est calme? Parce qu'il est près de Dieu, il se tient devant Dieu. Et pourquoi pas nous? Alors, je vais le dire de cette manière-là en terminant. En vivant les choses comme Dieu les met devant nous, nous allons écrire notre histoire. On ne va pas la laisser s'écrire. On va écrire notre histoire. On va réécrire notre histoire. On va modifier les choses. On va bousculer les choses. Ce n'est pas comme ça que ça va se dérouler. En se tenant devant Dieu comme il convient, je permets à Dieu d'agir. Rien n'empêche le Seigneur d'agir. Et moi, même dans la tempête, tranquille, parce que ma vie est dans ses mains. Alors, on termine avec le verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Et Daniel est un homme qui est l'objet de confidences de la part du Seigneur. Nous pouvons devenir les confidents du Seigneur, qui va nous dire dans cette situation, aide-moi, parce que je veux qu'elle change, je veux qu'elle soit modifiée. Mais je ne peux pas le faire si toi tu n'es pas juste. Mais dès que tu es juste, Dieu intervient et la situation va changer et la situation va être modifiée. Vous savez, le Seigneur n'est pas celui qui intervient quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais par contre, dès que les choses sont réglées, à partir de là, Dieu agit. Dieu agit. Et dans nos familles, c'est comme ça que les choses vont évoluer. Tenons-nous devant Dieu comme il convient, et Dieu va agir dans nos familles. Soyons dans la vérité, soyons dans la droiture, soyons dans la justice devant Dieu, dans notre famille, dans notre entourage, dans tout ce qui nous arrive, dans tout ce que nous traversons. Soyons vrais, soyons justes, soyons devant Dieu. Demandons-lui de renouveler notre intelligence pour voir, pour comprendre les choses, pour les voir d'en haut. Et à partir de là, eh bien les situations seront ce qu'elles sont. Mais moi, je les traverse. Je les regarde d'en haut. Mais ça ne veut pas dire que je regarde les autres d'en haut. C'est moi qui regarde la situation d'en haut. Moi, je suis bien dedans. Je suis bien en bas. En plein milieu. Mais je la vis d'en haut. Je la regarde d'en haut. Et à partir de là, je me dis, Seigneur, aujourd'hui c'était comme ça, demain ce ne sera pas comme ça. Parce que ce soir, je sais ce qu'il faut faire. Je vais me tenir devant toi. Il s'est tenu jusque dans le deuil, en prenant le sac et la cendre, dans le jeûne. Il s'est tenu devant Dieu et Dieu a agi. Et Dieu l'a sorti de situations dans lesquelles je ne voudrais pas me retrouver. Il s'y est retrouvé et Dieu l'a sorti. Alors, quelles que soient les situations dans lesquelles nous ne voudrions pas nous retrouver, peu importe, sachons une chose, le Seigneur va nous en sortir. Et il va nous en sortir de manière grandiose. Que son nom soit béni. Amen.